Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud, Traité Ktuvot, page 71, Daf Ayin Aleph. Bonne écoute et bon limoud.
L'histoire qui s'est passée à Beth Horon est relatée dans la Mishnah dans la Maseret Nedarim. Il s'agit d'un père qui, par suite à un vœu, était dans l'interdiction de recevoir tout profit de son fils. Et ce fils-là mariait son fils à lui. Alors, pour pouvoir inviter son père au mariage, il a dit à son camarade « Je t'offre tout le repas ici présent pour que mon père puisse assister. » Alors, le camarade a répondu « Si le repas est à moi, je le consacre à Hachem. » Alors, le fils a répliqué « Je ne te l'ai pas offert pour que tu le consacres, simplement pour que mon père puisse y assister. » Alors, le camarade lui a dit « Non, c'est pas vrai. Tu m'as offert le repas pour pouvoir jouir avec ton père et mettre le péché sur ma tête. » Et c'est là qu'on termine le cours du Daf Ayin. Et on vient de changer de page, on est Daf Ayin Aleph. Alors, on commence le cours du Daf Ayin Aleph. Je vous rappelle ce qu'on a vu dans la Mishnah. Si quelqu'un a prononcé un vœu interdisant sa femme tout profit de lui, moins de 30 jours, il pourra la garder. Plus de 30 jours, il devra la divorcer. Tandis que d'après Rabbi Yehuda, il y a une différence si c'est un Kohen ou un Israël. À propos d'un Israël, moins d'un mois, il pourra la garder. Plus d'un mois, il devra la divorcer. Tandis qu'à propos d'un Kohen, moins de 2 mois, il pourra la garder. Plus de 2 mois, il devra la divorcer. Alors, nous dit la Gemara, Rabbi Yehuda Omer b'Israël, Chodesh Echad v'chule. Rabbi Yehuda nous dit, si c'est un Israël, 1 mois, il pourra la garder, etc. Demande la Gemara, Haynu Tanakama. Pourquoi Rabbi Yehuda doit répéter la halakha à propos d'Israël? Elle ne diffère pas par rapport à la première opinion. Amar Abaye, Kohenet Atalash Moinan. Répond Abaye, étant donné que Rabbi Yehuda devait se manifester pour s'opposer à Rabbanan à propos du Kohen, alors, par la même occasion, il a répété la halakha à propos d'Israël. On tourne. Rava lui répond, Chodesh Male, Vechodesh Chaser, Ikabenayou. La divergence entre Rabbanan et Rabbi Yehuda existe aussi à propos d'Israël. D'après Rabbanan, on lui donnera toujours 30 jours, tandis que d'après Rabbi Yehuda, on lui donnera 1 mois. Que ce soit 1 mois plein de 30 jours, ou 1 mois creux de 29 jours. Amar Rav, Loshanu El Abim Faresh. Nous dit Rav, tout ce que la Mishnah nous enseigne, que le mari pourra garder sa femme, si le vœu a été limité à 30 jours, n'est que dans le cas où en effet le mari a précisé la date limite de son vœu. Aval vistam yotzi le alter veitel tuva. Mais s'il n'a pas précisé de date limite, il ne va même pas attendre 30 jours, mais il va devoir la divorcer de suite. Ou Shmuel amar afilu bistam lo yotzi. Tandis que Shmuel nous dit, même dans le cas où le mari n'a pas précisé la date limite du vœu, il pourra quand même attendre 30 jours. Shema yimtsa petach le nidro. Peut-être qu'il va pouvoir trouver un motif de repentir avec lequel le sage pourra le défaire de son vœu. Demande la Gemara, Vaif le Gouba Chadazimna. Pourquoi faut-il nous répéter la divergence qu'il y a entre Rav et Shmuel? On la connaît déjà d'ailleurs de Tnan, car nous a enseigné la Mishnah dans la Maseret Nedarim, Hamadir et Ishto Mitash Mishamita. Celui qui prononce un vœu, interdisant à sa femme tout rapport conjugal avec lui. Bet Shammai Omrim, Shte Shabbatot, ou Bet Yehiel Omrim, Shabbat Achat. D'après Bet Shammai, jusqu'à 2 semaines, il pourra la garder, au-delà, il devra la divorcer. Et d'après Bet Hillel, jusqu'à 1 semaine, il pourra la garder, au-delà, il devra la divorcer. Ve'amar Rav, et sur cela, nous dit Rav, Machloket bimfaresh, aval bistam yotzi lo alter veten tuva. La divergence entre Bet Shammai et Bet Hillel n'est qu'à propos de celui qui a précisé dans son vœu une date limite, mais dans le cas où il a prononcé son vœu sans le limiter, d'après tout le monde, on ne va même pas lui donner 1 semaine, et il va devoir la divorcer de suite et lui donner la tuva. Ou Shmuel Amar, Afilu Bestam Namiloyotzi, Shema Imsa, Petach Lenidro. Tandis que d'après Shmuel, même dans le cas où il n'a pas défini son vœu, on lui donnera 1 semaine. Peut-être qu'il réussira à trouver un motif de regret qui permettra au sage de le défaire de son vœu. Et comme on voit, c'est exactement la même divergence. Alors pourquoi la répéter ici? Elle est déductive de là-bas. Et pour la Gemara, non, elle n'est pas déductive. Tricha. Il faut nous la prendre dans les 2 endroits. De Hit, Marbehaï. Car si la divergence entre Rav et Shmuel n'avait été signalée que là-bas, on aurait pu s'imaginer, Be'aika Amar Rav, Mishum, de l'Ef Sharbe Parnas, c'est que dans ce cas-là que Rav a donné son opinion. Que si le vœu est indéfini, il va devoir la divorcer de suite, on ne lui donnera même pas 1 semaine. Étant donné que durant cette semaine, on ne pourra pas nommer un remplaçant pour les rapports conjugaux. Aval Be'a de l'Ef Sharbe Parnas, et m'a modélé le Shmuel. Mais à propos de notre Mishnah, on aurait pu penser que Rav approuve l'opinion de Shmuel. Même si le vœu est indéfini, on lui donnera 30 jours. Étant donné que durant ces 30 jours, on pourra nommer un remplaçant pour la nourriture. C'est pour cela que la Gemara était dans l'obligation de nous apprendre leur divergence dans notre Mishnah. Et si la divergence n'avait été apprise que dans notre Mishnah, On aurait dit Be'akamar Shmuel, Mishum Del Shamepanas. C'est que dans notre cas que Shmuel nous donne son opinion. Que même si le vœu est indéfini, on va la faire attendre 30 jours. Étant donné que durant ces 30 jours, on pourra nommer un remplaçant pour la nourriture. Aval Be'ahi, et même au-delà de Rav. Mais à propos du vœu concernant les rapports conjugaux, j'aurais pu penser que Shmuel approuve l'opinion de Rav. Et donc, au cas où le vœu est indéfini, on va l'obliger à divorcer de suite, étant donné qu'il n'est pas possible de nommer un remplaçant pour les rapports conjugaux. Donc, tricha. C'est pour cela que la Gemara devait nous apprendre la divergence dans les deux cas. Demande la Gemara, Tnan, on a appris dans notre Mishnah, Hamadir et Ishto Shalotitom Echad Mikola Perot Yotzi Veten Ktuva, celui qui a prononcé un vœu interdisant à sa femme la consommation d'un certain fruit, on ne la fait pas attendre, et donc il devra la divorcer de suite et lui donner la Ktuva. Alors la Gemara ne comprend pas pourquoi ce cas diffère du cas précédent. Quand le mari a interdit à sa femme tout profit, on lui donnera 30 jours. Et quand il ne lui a interdit qu'un fruit, on ne lui donne aucune chance. Comment est-ce possible? Alors nous dit la Gemara, Bishlam al Rav, Kan Bistam, Kan Bimferesh. En suivant l'opinion de Rav, on pourra trouver une réponse. Dans le premier cas, il s'agit d'un vœu limité, tandis que dans le deuxième cas, à propos du fruit, il s'agit d'un vœu illimité. Et comme nous le dit Rav à propos du vœu illimité, on ne la fera pas attendre. Et là, les Shmuel Kashia. Mais en suivant l'opinion de Shmuel, on ne trouve pas de réponse à la question. Répond la Gemara, Hachab Mayaskinan, Kegon Shenadraï Vekayam Laïou. En fait, soyons attentifs. Comment est-ce possible qu'une personne interdit à une autre personne par un vœu la consommation d'un fruit? Chacun peut s'interdire par un vœu sur soi-même quoi que ce soit, ou bien interdire à un autre ce qui est rapport avec lui-même. Mais il n'est absolument pas possible d'interdire par un vœu à une deuxième personne quelque chose qui n'a aucun rapport avec celui qui a prononcé le vœu. Donc comment le mari peut interdire à sa femme la consommation d'un fruit? Alors pour répondre à cela, il faudra dire que la Mishnah parle du cas que Gon Shenadrahi Vekiem La Iou. La femme mariée qui a prononcé un vœu a deux manières de s'en défaire. La manière générale qui est applicable avec tout le monde, consulter le sage pour trouver un motif de regret, et par ce motif, le sage pourra abolir le vœu. Et l'autre manière qui ne concerne que la femme mariée, c'est qu'elle mette son mari au courant de son vœu, et la Torah a donné le pouvoir au mari d'effacer ou d'abolir le vœu le jour où il a été mis au courant. Alors ce n'est pas comme on a compris dans la Mishnah que c'est lui qui a prononcé le vœu l'interdisant la consommation d'un fruit. On parle du cas où c'est elle-même qui a prononcé le vœu, s'interdisant à elle-même la consommation d'un certain fruit. Et lui, quand il a été mis au courant, il a laissé l'occasion passer, et au lieu de l'en défaire le même jour, comme cela lui a été accordé par la Torah, il n'a rien fait. Et donc à présent, si elle veut s'en défaire, elle est obligée de passer par la procédure générale du sage. Maintenant, il nous reste deux choses à expliquer. Premièrement, pourquoi on l'oblige à divorcer de suite, et on n'attend pas un mois comme au début de la Mishnah? Et deuxièmement, pourquoi doit-il donner la Ktuva? Ce qui est arrivé n'est pas de sa faute à lui, mais de sa faute à elle. Alors Rashi répond à la première question. On suppose que si elle a prononcé ce vœu, c'est pour tester son mari, est-ce qu'il tient à elle ou pas. Et son test lui a fait porter à croire qu'il ne l'aime pas, étant donné qu'il n'a pas employé son pouvoir pour la défaire de son vœu. Et par conséquent, ça ne sert à rien d'attendre. On a dit qu'on va attendre pour donner la possibilité à trouver un motif de regret. Mais elle, au contraire, elle n'est pas intéressée à chercher un motif de regret. Elle est intéressée à ce que le vœu soit en vigueur pour pouvoir divorcer et prendre la Ktuva. Donc ça ne sert à rien à attendre, autant divorcer de suite. On a répondu à la première question. Maintenant, la deuxième question. Pourquoi on le fait débourser la Ktuva? Pourquoi est-il fautif? Nous dit la Gemara, « Vesava Rabbi Meir, hu noten etzba ben chinea. » Rav Meir est d'avis que ce n'est pas elle-même qui s'est mise son doigt dans la bouche et se l'est mordu. C'est lui qui a fourré son doigt à elle dans sa bouche à elle. Ceci évidemment est une expression. Ce que veut nous dire la Gemara, l'interdit qu'elle a à cause de son vœu n'est pas de sa faute à elle. Ce n'est pas elle qui a mis son doigt dans sa bouche, mais c'est de sa faute à lui. C'est lui qui, par le fait de ne pas l'avoir aboli, a mis son doigt dans sa bouche, et donc c'est lui qui est fautif. C'est pour cela qu'il devra débourser la Ktuva. Demande la Gemara, « Vesava Rabbi Meir, hu noten etzba ben chinea. » Est-ce qu'il est vrai que telle est l'opinion de Rabbi Meir, que c'est lui qui est considéré comme le fautif? C'est lui qui a mis son doigt dans sa bouche. Vatania, on a vu dans la Braïta, Haïcha Shenadra Benazir, la femme qui a fait un vœu de devenir ascète. Veshama Baala, Velo Eferla. Et quand son mari en a pris connaissance, il ne le lui a pas aboli. Rabbi Meir ve Rabbi Uda Omrim, Hinatna Etzba Ben Chinea. Rabbi Meir et Rabbi Uda nous disent, c'est elle la fautif. C'est elle qui s'est fourré son doigt dans sa bouche. Le Fikar, Imrata Baal la faire y affaire. Par conséquent, le mari fera ce qu'il voudra. De toute façon, on ne lui en tiendra pas grief. Il n'est pas responsable. Alors dès le début, quand il a été mis au courant du vœu, s'il le désire, il pourra la défaire du vœu et continuer à vivre avec elle. Veim amar ifshi beishan adranit, Tete shelo biktuva. Mais s'il a dit, je n'ai pas envie de continuer à vivre avec une femme prompte à faire des vœux, il pourra la divorcer sans lui donner de ktuva. Tandis que Rabbi Yossi et Rabbi Elazar omrim, hu noten etzva ben shinea. Rabbi Yossi et Rabbi Elazar nous disent, c'est lui qui en est tenu responsable, c'est lui qui lui a fourré le doigt dans la bouche. Le fikach imrata abal la faire yafer, veim amar iefshi beshanadanit, yotzi veten ktuva. Et par conséquent, si dès le début, quand il a été mis au courant du vœu, il désire la garder, il n'a qu'à la défaire de son vœu et on n'en parle plus. Mais s'il dit, je ne désire pas continuer à vivre avec elle, je n'ai pas envie une femme qui est prompte à faire des vœux, il ne pourra la divorcer qu'en lui payant la ktuva. En tous les cas, on voit que d'après Rabbi Meir, ce n'est pas lui qui est tenu responsable. Répond la Gemara, et pour, il faudra inverser les auteurs. Rabbi Meir et Rabbi Yehuda omrim, hu noten. Rabbi Yossi et Rabbi Elazar omrim, hi natna. D'après Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, c'est lui qui a fourré son doigt. C'est lui qui est tenu responsable. Et d'après Rabbi Yossi et Rabbi Elazar, c'est elle qui est tenue responsable. C'est elle qui a fourré son doigt. Demande la Gemara, comment cela est-ce possible? Le savant Rabbi Yossi, hi natna. Donc il en sort après notre rectification que Rabbi Yossi partage l'opinion que c'est elle qui est tenue responsable. Ve'atnan, on l'a pris dans la Mishnah. Rabbi Yossi Omer, ve'aniut, shelo natan kitva. C'est écrit dans notre Mishnah, celui qui a prononcé un vœu interdisant à sa femme l'utilisation d'un parfum, d'après la première opinion, il devra la divorcer de suite, tandis que d'après Rabbi Yossi, au cas où il s'agit de pauvres, ce n'est que si le vœu est illimité qu'il devra la divorcer. La divorcer, cela s'entend, la divorcer et lui donner la ktuva. Et cependant, on a expliqué à la Mishnah qu'il ne s'agit pas du cas où c'est lui qui a prononcé le vœu, mais du cas que c'est elle qui l'a prononcé et lui qui s'est tu. Et si Rabbi Yossi le met dans le devoir de payer la ktuva, c'est qu'il le tient responsable. Répond la Gemara, Emma, Rabbi Meir et Rabbi Yossi omrim hu noten, Rabbi Yehuda et Rabbi Elazar omrim hi natna. On ne va pas seulement inverser les auteurs, mais aussi les bouleverser. Rabbi Meir et Rabbi Yossi sont ceux qui partagent l'opinion que c'est lui qui est tenu pour responsable, tandis que Rabbi Yehuda et Rabbi Elazar eux disent que c'est elle qui est tenue responsable. Demande la Gemara, et comment cela est possible? Mais ça va, Rabbi Yehuda hi natna. Est-ce qu'il est vrai que Rabbi Yehuda partage l'avis que c'est elle qui est tenue responsable? Ve'atnan, on a vu dans notre Mishnah, à propos du vœu interdisant la consommation d'un certain fruit, Rabbi Yehuda Omer be Israël yom echad yokayem. Rabbi Yehuda dit, à propos du Israël, il ne devra pas la divorcer de suite, il pourra la garder un jour. Et au bout de ce jour, il devra la divorcer et lui donner la ktuva. Et donc il s'ensuit que c'est lui qui est tenu responsable. Répond la Gemara, Emma, Rabbi Meir, ve Rabbi Yehuda, ve Rabbi Yossi omrim hu noten. Ce n'est plus 2 contre 2, mais 3 contre 1. Rabbi Meir, Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi partagent l'opinion que c'est lui qui est tenu responsable. Rabbi Elazar omer hi natna. Tandis que Rabbi Elazar pense que c'est elle qui est tenue responsable. Ve'im timtzel omar zuge zuge ktani. Et si tu tiens à me dire qu'il faut respecter le groupe de deux, Emma, alors dis-le de la façon suivante. Rabbi Meir, Rabbi Elazar omrim hi natna. Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi omrim hu noten. Rabbi Meir et Rabbi Elazar partagent l'opinion que c'est elle qui est tenue responsable. Tandis que Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi partagent l'opinion que c'est lui qui est tenu responsable. Verastama de l'ok Rabbi Meir. Et même qu'en général, quand la Mishnah a mentionné une halakha sans en préciser l'auteur, on dira toujours qu'il s'agit de Rabbi Meir, cette Mishnah, comme beaucoup d'autres, font l'exception. Et la première opinion de la Mishnah qui a été dite sans préciser l'auteur, on ne pourra pas dire que c'est Rabbi Meir, étant donné que d'après Rabbi Meir, ce n'est pas lui qui est tenu responsable, et donc il n'a pas à payer la ktuva. Donc on devra dire que l'auteur de la Mishnah est une autre personne. Demande la Gemara, ve savar Rabbi Yossi be'aniut shebaratan kitva. Comment peut-on comprendre les propos de Rabbi Yossi si Rabbi Yossi le tient responsable et par conséquent, dans le cas du pauvre, si le vœu n'a pas été limité, il va devoir la divorcer et lui donner la ktuva à Alma ba'alma timefer. Donc on va devoir dire que forcément, d'après Rabbi Yossi, le mari aurait pu abolir ce vœu, sinon il n'est certainement pas responsable. Omino, on avait une Mishnah contradictoire. Et le dvarim sha'abal mefer, dvarim shi'esh bahem inui nefesh. Voici la catégorie de vœux que le mari pourra défaire. Des vœux qui ont rapport à la mortification. Par exemple, im erchat, im lo erchat. Un vœu concernant la toilette. Im et kachet, im lo et kachet. Ou un vœu concernant l'embellissement. Amar Rabbi Yossi, en elu nidre inui nefesh. Rabbi Yossi s'oppose à cela. Ce n'est pas ça qui est considéré comme une mortification. Ve elouem nidre inui nefesh. Et qu'est-ce qui est oui défini comme mortification? Shelo ochal basar, ve shelo eshte yain. Que je ne consommerai pas de viande, ou bien je ne boirai pas de vin. Veshelo et kachet, bebigde sivonim. Je ne vais pas mettre des habits de couleur. En tous les cas, ce qui nous concerne, que d'après Rabbi Yossi, le mari ne peut pas abolir les vœux concernant les parfums. Ceci n'est pas un vœu de mortification dont il a le pouvoir d'abolir. Donc pourquoi dans notre Mishnah, Rabbi Yossi le tient responsable? On a tourné la page, on est Ayin Aleph, Amud Bet. Répond la Gemara.
Vous êtes en plein cours de Gemara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Shelo et Kachet, Bebigdet Sivonim. Je ne vais pas mettre des habits de couleur. En tous les cas, ce qui nous concerne, que d'après Rabbi Yossi, le mari ne peut pas abolir les vœux concernant les parfums. Ceci n'est pas un vœu de mortification dont il a le pouvoir d'abolir. Donc pourquoi dans notre Mishnah, Rabbi Yossi le tient responsable? On a tourné la page, on est Ayin Aleph, Amud Bet. Répond la Gemara, Hacha b'mayaskinan, betvarim shebeno lebena. Dans la Mishnah, il ne s'agit pas de n'importe quel parfum, mais d'une crème cosmétique qui est en rapport entre eux deux. Explique Rashi, ce qui concerne les rapports conjugaux, ce qui veut dire les pâtes épilatoires. À présent, on va voir plusieurs fois dans notre traité ces mots-là dans la Gemara, dvarim shebeno lebena, les choses qui sont entre elle et lui. Il s'agit toujours de la même chose, les pâtes épilatoires, et je ne vais plus traduire ces mots-là, mais plutôt employer l'expression de la Gemara, ce qui est entre elle et lui. Demande la Gemara, hanicha le mande amar dvarim shebeno lebena habal mefer, et là le mande amar en habal mefer, maïka le memar. On pourra admettre la réponse de la Gemara en suivant l'opinion qui nous dit que le mari a le pouvoir d'abolir les vœux qui concernent les choses qui sont entre elle et lui, même si ces vœux-là ne sont pas des vœux de mortification, mais en suivant l'opinion qui nous dit que le mari n'a pas le pouvoir de les abolir, étant donné qu'ils ne sont pas mortifiants. Donc on ne comprend pas pourquoi Rabbi Yossi le tient responsable. Il n'aurait pas pu, même s'il l'aurait voulu, abolir le vœu de Itmar, car il nous a été enseigné. Dvarim shebeno lebena, ravuna amar habal mefer, ravadabara ava amar en habal mefer. Les vœux concernant ce qui est entre elle et lui, d'après Ravuna, le mari a le pouvoir de les abolir. Mais d'après Ravada, le fils de Ava, il n'a pas le pouvoir. Shelom atzinu shual shemet b'afarpir. Car ceci ne le concerne pas. Même si elle garde ses poils, ce n'est pas dangereux pour lui, il saura être prudent, étant donné que c'est un terrain où il a l'habitude de s'aventurer. De la même façon qu'on n'a jamais vu un renard mourir dans sa tanière. Répond la Gemara, Ela achabe mayaskinan. Alors en effet, on va devoir dire que dans la Mishnah, il s'agit d'un vœu qui a été prononcé d'une façon différente. Que gon de talinu le kishuta betashmishamita. Elle a fait dépendre les soins de beauté aux relations sexuelles. La Gemara explique, de Amra, elle a dit, Yaser hanaat tashmishcha alai imet kachet. Je m'interdis sur moi-même par un vœu de prendre profit de nos rapports conjugaux si je viens à prendre soin de ma beauté. Et ce vœu, d'après tout le monde, le mari a le pouvoir d'abolir. Étant donné que si elle vient à se faire belle, leurs rapports conjugaux deviennent interdits, et ça le concerne à lui directement, donc il a le pouvoir de l'abolir. Maintenant, je vous rappelle ce qu'on a dit au début du chapitre, qu'un vœu n'a pas le pouvoir d'abolir un engagement. Compte tenu de cela, on ne comprend pas la réponse de la Gemara. Étant donné que les conjoints se sont engagés l'un vis-à-vis de l'autre d'avoir des rapports conjugaux, comment peut-elle prononcer un vœu qui s'oppose aux rapports conjugaux? Alors la Gemara elle-même répond à cela. Que de Rav Kahana, comme nous le disait Rav Kahana, de Amar Rav Kahana, car nous enseigne Rav Kahana, Hana'at tashmishi alecha kofeum samashto, Hana'at tashmishcha alay yafer. Si elle a fait un vœu l'interdisant à lui, je t'interdis de prendre profit des rapports conjugaux avec moi, il peut la contraindre à avoir des rapports conjugaux avec lui, elle ne pourra pas se dérober, le vœu n'a pas lieu, elle lui est engagée. Mais si le vœu qu'elle a prononcé l'interdit à elle, je m'interdis sur moi-même de prendre profit de nos rapports conjugaux, étant donné qu'elle n'est pas engagée vis-à-vis d'elle-même, le vœu a lieu, et son mari va devoir l'abolir. Le fiche en machilim le adam davara sur l'or. Car on ne donne pas à manger à quelqu'un quelque chose qui lui est interdit. Demande la Gemara, velote kachet, velote aser. Pourquoi tu me dis que même d'après Rabbi Yossi, le mari a le pouvoir d'abolir ce vœu, étant donné que c'est un vœu qui le concerne? Ce n'est pas vrai, ce vœu ne le concerne pas. Elle n'a qu'à ne pas prendre soin d'elle-même, et donc les rapports conjugaux ne seront pas interdits. Et le fait de ne pas prendre soin de sa beauté n'est pas un vœu mortifiant d'après Rabbi Yossi, et donc le mari n'aurait pas dû avoir le pouvoir d'abolir. Répond la Gemara, imken karulam nouvelet. Étant donné que si elle ne va pas se maquiller, prendre soin de sa beauté, les gens vont se moquer d'elle, les gens vont dire qu'elle est laide, elle ne pourra pas s'abstenir, et on est certain qu'elle prendra soin d'elle-même. Et donc on a une quasi certitude qu'en fin de compte, les rapports conjugaux vont être interdits. Donc ça le concerne, et il a le pouvoir de l'abolir. Demande la Gemara, petite cachette, petite aser, il est bet shamaï, shte shabbatot, il est bet hilel, shabbat achat. Je vous rappelle la divergence qui se trouve dans le 5e chapitre, à propos de celui qui a prononcé un vœu interdisant à sa femme le profit des rapports conjugaux. D'après Beth Shammai, si le vœu a été limité à 2 semaines, il pourra la garder. Et d'après Beth Hillel, s'il a été limité à 1 semaine, il pourra la garder. Sinon, il va devoir divorcer. Alors pourquoi notre Mishnah nous dit à propos des soins de beauté que le mari va devoir la divorcer de suite, on ne lui donne aucune chance. On n'a qu'à lui permettre le maquillage, les soins de beauté, et automatiquement ce seront les rapports conjugaux qui seront interdits, et il aura droit à une suspension de 2 semaines d'après Bet Shammai et d'une semaine d'après Bet Hillel. Répond la Gemara, Hani Milei Echa de Hadra Iyu. Quand est-ce qu'on lui donne un laps de temps d'une ou deux semaines, que si c'est lui-même qui a prononcé le vœu? De Savra Mirtach Ratach Ilavei, Vashta Motif Date. Elle est prête à avaler l'affront. Elle se dit, c'est normal, il a prononcé ce vœu car maintenant il est énervé contre moi, et bientôt il va se calmer. Aval Acha de Hadra Ihiv Jatikla, Savra Midi Ishtak Misna ou de Sanili. Mais dans notre Mishnah où il s'agit du cas que c'est elle qui a prononcé le vœu et lui qui s'est tu, là elle ne le pardonne pas. Et elle se dit, puisque ça vient de moi, c'est que lui, il n'est pas énervé. Et si quand même il s'est tu, c'est qu'il me déteste. Il m'a haït. Et donc elle n'est pas prête à attendre, même pas un jour, et il va devoir la divorcer de suite. La Mishnah avait dit, Rabbi Yossi Omer ben Yehud selon Atan Kitva. Si ce vœu concerne une famille indigente, le mari sera dans l'obligation de la divorcer, que si le vœu est illimité. Demande la Gemara avec Kama Kitva. Qu'est-ce qui est considéré comme un vœu illimité? Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, Yudbet Chodesh. Nous dit Rav Yehuda au nom de Shmuel, 12 mois. Mais si le vœu a été limité à une date ultérieure, c'est comme s'il est illimité et il va devoir divorcer. Rabba Barbar Chana Amar Rav Yochanan, Esser Shanim. Tandis que Rabba, le fils de Chana, au nom de Rav Yochanan, nous dit, la limite maximale n'est pas de 12 mois mais de 10 ans. Rav Chisda Amar Avimi, Regel. Et d'après Rav Chisda, au nom de Avimi, jusqu'à la prochaine fête. Si le vœu a été limité à une date ultérieure de la fête à venir, c'est comme s'il est illimité et il va devoir le divorcer. Sheken Bnot Israël Mitkashot Varegel, car c'est à ce moment-là que les filles d'Israël se font belles en l'honneur de la fête. Et donc celle-là aussi ne veut pas faire exception. Ou bien Shirut la médium. Et si le vœu concerne une famille aisée, la limite maximale est de 30 jours. Maishna la médium. Pourquoi c'est cette date qui a été choisie? Qu'est-ce qu'il y a de spécial au bout de 30 jours? Amar Abaye, Sheken Isha Chashuva Nehenet Merer Kishuta la médium. Répond Abaye, car une femme importante profite de l'odeur de ses parfums pendant 30 jours. Et donc, elle pourra toujours profiter de l'odeur de ses parfums qu'elle s'est parfumée avant le vœu. Nous commençons la Mishnah. Hamadiret ishto shelo telech le betavia. Celui qui a prononcé un vœu interdisant à sa femme de retourner chez ses parents. Bizman shui mabair. Si lui se trouve avec elle dans la même ville que ses parents à elle. Chodesh echad yekayem. Shnaim yotzi v'tem tuva. Si le vœu a été limité à 1 mois, il pourra la garder. Mais à 2 mois, il va devoir la divorcer et lui donner la tuva. Ou bizman shihu beirachéret. Mais si le couple habite dans une autre ville que ses parents à elle, Regel Echad Yokayem, Shlosha Yotzi Veten Tuva. Étant donné que la femme a l'habitude de visiter ses parents les jours de fête, si le vœu comprend une fête, il pourra la garder, mais s'il comprend 3 fêtes, il va devoir la divorcer et lui donner la Tuva. On verra dans la Gemara qu'est-ce qui se passe à propos de 2 fêtes. Hamadir et Ishto, Shelotele Rebet Avel. Celui qui prononce un vœu interdisant à sa femme d'aller visiter les endeuillés, oh le Bet Amishté, ou bien il l'interdit par un vœu d'aller aux réceptions de joie. Yotzi v'iten ktuva mipne sheno el befanea. Il va devoir la divorcer et lui payer la ktuva, car elle n'est pas sa prisonnière et il n'a pas à l'emprisonner. V'im haya tohen mishum davar acher rachai. Et s'il soutenait formuler ce vœu à cause d'autre chose, ceci est dans son droit. Il n'a pas à la divorcer. La Gemara va expliquer qu'est-ce que ça veut dire mishum davar acher à cause d'autre chose. Amala, s'il lui a dit et si le vœu qui a été prononcé était pour l'obliger à dire à un tel ce qu'elle lui a dit, ou bien pour l'obliger à dire à un tel ce que lui lui a dit, ou bien si le vœu a été prononcé pour l'obliger à remplir et à vider à la poubelle, évidemment la Gemara va expliquer tout cela. Il va devoir la divorcer et lui donner la ktuva. On a fini la Mishnah, on commence la Gemara. Demande la Gemara, Hagufa Kashia. Les propos de la Mishnah ont un sens contradictoire. Amar Tarigalecha Dukayem, Hashnaim Yotzi Vetentuva. Au début, la Mishnah nous dit que si le vœu est limité à une fête, il pourra la garder. Donc il est déductif que si le vœu est plus d'une fête, 2 fêtes, il va devoir la divorcer et lui payer la Ktuva. Mais la Ktuva, Emma Sefa, voyons voir la fin de la Mishnah. Shlosha Yotzi Vetentuva, Hashnaim Yukayem. Si le vœu comprend 3 fêtes, il va devoir la divorcer. Donc, d'ici les déductifs, que de fait, il pourra la garder. Répond Abaye, Amar Abaye, Sefa Atan le Kohenet, ve Rav Yehuda. La fin de la Mishnah suit l'opinion de Rav Yehuda, qui lui a différencié le Kohen du Israël, comme on l'a vu et expliqué dans la première Mishnah. Et en effet, voici comment il faudra comprendre la Mishnah. À propos du Israël, si le vœu comprend une fête, il pourra la garder. et de là on déduit, mais de fait, il devra divorcer. Tandis qu'à propos du Kohen, si le vœu comprend trois fêtes, il va devoir divorcer, et de là on déduit que de fait, il pourra la garder. Rabba Varoula Amar Lokashia. Tandis que Rabba, le fils de Oula, nous donne une autre réponse. Kan Birdoufa, Kan Mjenardoufa. La première déduction est juste, à propos de celle qui languit ardemment ses parents. Et en effet, à propos de celle-là, si le vœu comprend de fait, il va devoir divorcer. Tandis que l'autre déduction, celle qui est déductive de la fin de la Mishnah, est juste à propos d'une femme qui ne languit pas spécialement ses parents. Et donc, ce n'est que si le vœu comprend trois fêtes qu'il devra la divorcer, mais de fait, il n'a pas besoin de la divorcer. La Gemara nous rapporte un verset pour le commenter. Az Haiti Be'enav Kemotet Shalom. Dès lors, je suis à ses yeux comme une cause de bonheur. Amar Rabbi Yochanan, nous dit Rabbi Yochanan, que Kala Shenimtet Shlema Bevet Chamia, Urdufa Lelech ou Lagichivcha Bevet Avia. Comme une jeune mariée qui a bien intégré la maison de ses beaux-parents et se trouve dans une position de choix, qui est impatiente d'aller vanter sa réussite à ses parents. Et maintenant, la Gemara commente un autre verset. Vaya Bayom Ha'unu Hashem Tikrei Ishi, Velo Tikrei Li Od Baali. Et à cette époque, dit Hashem, tu m'appelleras mon époux. Et tu ne m'appelleras plus mon mari. En langue sacrée, le mot Ishi, mon époux, est plus intime et plus personnel que le mot Baal, mari. Alors, Amar Rabbi Yochanan, que Kala Bevet Chamia, velo que Kala Bevet Avia. Comme une jeune mariée qui se trouve dans la maison de ses beaux-parents, et qui s'est déjà habituée à son mari, et n'a plus honte de l'appeler d'une façon intime. Et non pas comme une jeune mariée qui se trouve chez ses parents, et qui n'est pas encore habituée à son mari, et donc qui adopte un ton officiel, et l'appelle Baali, mon mari. On reprend le passage de la Mishnah qui avait dit « Amadir et ishto vechule » celui qui par un vœu interdit à sa femme d'aller rendre visite à l'endeuillé ou de participer aux réceptions de joie. Demande la Gemara, « Bishlama le bet amishte » admettons à propos des réceptions de joie, on a changé de page, on est à une bet amoud alef. « Ikan noeb lefanea » En effet, si...
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Daf Hayomi, quotidiennement en vidéo.